Gnota FM, le journal
Léon Magloire Monga.
Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 octobre 2014, exactement 18h à Lubumbashi. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur Gnota FM. Mise en onde, Julien Sangwa, et voici tout de suite les grands titres. Au sommaire du Radio Journal, la présence d'Uhuru Kenyatta à La Haye. Le président kényan a comparu ce mercredi pour tenter avec ses avocats de défier la Cour pénale internationale qui lui reproche les crimes contre l'humanité. C'était durant la crise post-électorale de 2007 dans son pays, le Kenya. On se rendra également à Kolwezi, précisément au quartier Kasulo, où se poursuivent en toute quiétude l'exploitation artisanale. Cette pratique, plusieurs fois prohibée par les autorités provinciales et nationales, expose les habitants de cette partie de la commune de Dilala aux éboulements et à l'effondrement des maisons. Voilà pour le sommaire.
Gnota FM, Lubumbashi 88.7 MHz.
Bonsoir à tous, je vous annonce un titre. Le président kényan, Uhuru Kenyatta, est arrivé hier à La Haye, siège de la CPI, Cour pénale internationale. Alors, comme cela a été initialement prévu, aujourd'hui, il a même assisté à une audience qui devra déterminer les griefs qui pèsent sur lui à la CPI. Rappelons qu'il lui est reproché les crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales, c'était en 2007, alors qu'il n'était pas encore président de la République du Kenya. Linda Lukalu, reportage.
C'est un président kényan serein et confiant devant la Cour pénale où il ne dira rien. Il a assisté à une audience déterminante pour la suite de la procédure lancée à son encontre. Des dizaines de kényans sont venus lui témoigner de leur soutien. Kenyatta s'est rendu à la CPI, pas pour y être jugé, mais pour que la Cour décide si son procès devra s'ouvrir ou pas.
We know that there is evidence in existence.
Nous savons que les preuves existent. Nous ne savons pas ce que ces preuves nous révéleront. Comme je l'ai déclaré, elles pourraient innocenter ou inculper M. Kenyatta. Mais pour l'instant, les actes du gouvernement kényan nous empêchent de les étudier comme nous devrions le faire.
Accusé d'avoir orchestré une partie des violences post-électorales en fin 2007 dans son pays. Les violences au cours desquelles 60 000 personnes ont été déplacées et plus de 1 200 personnes tuées. Mais les preuves font défaut et la défense s'appuie sur ce fait pour réclamer l'annulation des poursuites.
Le dossier ne tient pas. Il ne tient pas dans le sens où nous ne pourrons pas aller plus loin. Si le procureur n'intervient pas, je vous demande de clore cette affaire.
Ainsi, le juge peut mettre définitivement fin à cette procédure, la prolonger ou renvoyer l'affaire devant l'Assemblée des États partis à la CPI pour qu'elle tranche.
Linda Lukalu, alors un président à l'exercice à la Cour pénale internationale, quelles conséquences cela peut entraîner sur le plan du droit international? Selon l'internationaliste, le professeur José Nsabwa, Uhuru Kenyatta s'assume et que tous les présidents en exercice ne sont pas en droit d'aller se livrer à la CPI comme c'est le cas actuellement avec Uhuru Kenyatta pendant qu'ils sont encore en exercice. Suivez le professeur José Nsabwa. Il s'est ainsi exprimé au micro de Guillaume Kazadi.
Aujourd'hui, si le président kényan a pris le courage d'aller se présenter devant la CPI, la première conséquence que nous pouvons indiquer, c'est que ici, il y a une certaine harmonie dans le sens de marcher avec les lois internationales. Parce que lorsque les lois sont élaborées, elles doivent être respectées. Et le respect des lois, c'est une manière aussi de contribuer à la paix et à la sécurité internationale. Pour des présidents en exercice, il y a encore immunité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pendant le temps qu'ils sont encore au pouvoir, bien qu'il soit établi certains faits, mais on n'a pas le droit de mettre la main sur eux pour les traîner au niveau de la Cour pénale internationale. Mais si un président en exercice puisse de lui-même prendre l'initiative d'y aller, eh bien de ce point de vue-là, et du point de vue de droit, il faut comprendre que ce président accepte d'assumer toutes les conséquences de ce comportement-là. Donc, parler en termes de jurisprudence, je pense que pour l'instant, nous ne pouvons pas aller de cette manière-là. Cela dépend évidemment. Il y a un principe général et un principe particulier, et ce principe particulier en appelle à s'assumer à tout celui qui voudrait évidemment de son chef aller se présenter.
Professeur José Nsabwa de l'Université de Lubumbashi s'est exprimé au micro de Guillaume Kassani. On va rester en justice, cette fois-ci on va parler des affaires foncières. Sachez que tout locataire qui est dans l'irrégularité ou toute personne qui occupe sans droit une propriété peut être déguerpie. Cependant, ce droit de déguerpir doit se faire en suivant certaines dispositions de la loi. Partant de multiples cas de violation en cette matière connue à Lubumbashi, les éclaircissements de maître Patrick Kaboto, il est avocat, il s'est exprimé dans ce reportage de Linda Lukalu.
Il arrive de plus en plus que les effets des personnes soient expulsés et que l'on fasse partir avec la police des locataires ou les occupants d'une maison. Devant ces cas de déguerpissement en violation de la loi, l'on a l'impression que les conditions du déguerpissement sont négligées et ignorées. Il serait utile, selon les experts interrogés, de savoir que tout déguerpissement doit être judiciaire, c'est-à-dire ce n'est pas une décision du tribunal à que le déguerpissement est prononcé, ou mieux par un jugement qui ordonne à une personne de déguerpir. Encore faudra-t-il à que le jugement rendu ne soit pas attaquable ou que l'on ait épuisé les voies de recours. Ainsi, on peut alors exécuter en recourant à la force publique. Après le prononcé du jugement de déguerpissement et l'épuisement des voies des cours, il est en principe prévu que celui qui gagne le procès paye les frais proportionnels pour faire exécuter le jugement en déguerpissement. En outre, il est même admis que l'on donne un commandement de 24 ou 48 heures par écrit pour permettre à la personne de s'amender ou de quitter de bonne foi son contrainte. Ce n'est qu'après que l'on peut déguerpir. Toute autre forme de déguerpissement serait faite en violation de la loi.
Voilà, de la bonne matière de maître Patrick Kaboto, rendu par Lumière Moussaoueno, Linda Lukalu, comme annoncé dans le chapeau. Et puis l'exploitation minière artisanale, je le disais en titre, se poursuit au quartier Kasulo de la ville urbano-rurale de Kolwezi. Une pratique qui expose les habitants de la commune de Dilala aux éboulements et même aux effondrements de leurs maisons d'habitation, surtout pendant la saison des pluies qui arrive. Janine Boutier, Michel Olila, reportage.
On se croirait dans une carrière. Nous sommes au quartier Kasulo de la ville minière de Kolwezi. Ici, les habitants du coin sont à la recherche du cobalt et du cuivre. Et pour y arriver, des galeries sont creusées dans presque toutes les parcelles.
Selon Mungu, on a la matesso avant de venir à Tesso. Matesso va creuser avant Tesso. Matesso bintu va faire mais venir à Ripata.
C'est le bon Dieu qui a vu la misère de la population. C'est en creusant une fosse sceptique qu'on a su qu'il y avait des minières. C'est Dieu.
Est-ce qu'il produit quoi quelque chose?
On dirait qu'on n'a pas peur des éboulements dans ces coins devenus un véritable trésor.
Il y a moyen de protéger l'environnement. Nous creusons des trous et on met des bâches à une hauteur de manière à ce que, quand il pleut, l'eau coule directement dans les trous.
Si rien n'est fait, un glissement des terres risque d'emporter ces quartiers, surtout avec l'arrivée de la pluie.
Faisant suite au séjour en Belgique du ministre provincial de l'Environnement Dax Sompuy, une délégation de la province du Brabant wallon et dans la ville de Lubumbashi, l'objectif c'est d'échanger avec entre experts sur la gestion des déchets et sur la promotion du tourisme, car la province belge Brabant wallon est avancée dans ce domaine. Suivez. Voilà, cet élément va venir dans nos prochaines interventions. C'est ça que me dit mon réalisateur. On va parler autre chose à présent. Sachez que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'implique dans la lutte contre le chômage et prône ainsi la sous-traitance locale dans les entreprises. Cependant, cette sous-traitance a du mal à s'expliquer sur le terrain pour plusieurs raisons. D'un côté, les investisseurs étrangers déplorent la qualité de la main-d'œuvre locale. Et de l'autre, le manque de politique d'encadrement. On va également y revenir au cours de nos prochaines interventions. On va à présent parler santé. Et sachez que la césarienne est devenue monnaie courante dans la ville de Lubumbashi, dans différents centres hospitaliers. Selon les professionnels de santé, eh bien, cela s'explique dans différentes manières, telles que la formation physique d'une mère qui ne lui permet pas d'expulser le nourrisson par la voie basse, ou alors c'est purement et simplement la cupidité du personnel soignant qui souhaite bien la césarienne qui coûterait un peu plus cher. Un reportage de Mamie Hélène Calilo.
Selon les études récentes en gynécologie, il s'avère que la césarienne est beaucoup pratiquée à Lubumbashi. Les raisons sont multiples. D'une part, l'état clinique de l'accouché, le lucre, et de l'autre, une culture que les Lushoises importent de l'Afrique australe.
Notamment la forme du bassin, ça peut être un bassin qui est électrique, ça veut dire qu'il n'a pas assez de place pour laisser passer un fœtus. Là, on peut avoir par exemple la macrosomie, ça veut dire que le fœtus est très gros. Au-delà de 4000 grammes, par exemple.
Certaines femmes, par contre, préfèrent l'accouchement par voie haute parce qu'elles font foi dans les suspicions relatives au maintien de leur féminité.
Il y a des médecins qui préfèrent ne pas prendre de risques parfois ou parce qu'ils se disent que s'il faut surveiller une femme qui est en train d'accoucher, il a besoin de 8 heures du temps, 10 heures du temps au chevet de cette malade-là. Ça peut lui prendre beaucoup de temps, il a autre chose à faire. Il préférera peut-être faire une césarienne qui prend 45 minutes. Comme ça, il peut vaquer à d'autres occupations.
Néanmoins, beaucoup de primiparagées sont souvent candidates à la césarienne parce qu'elles sont porteuses d'une grossesse à risque.
Le bassin n'a pas encore fini sa maturation. Et du moment qu'elle est là conçue, il y a un risque certain pour cette femme-là si elle a accouché par voie basse, notamment ce qu'on appelle les fistules vésico-vaginales. On préférerait faire une césarienne chez cette adolescente-là.
En somme, la césarienne est un risque de foi incontournable par laquelle la femme donne vie.
Et on va à présent parler enseignement supérieur et universitaire de nos jours. Le taux de réussite, ça c'est un constat, en deuxième session à l'enseignement supérieur et universitaire va largement au-dessus de celui de la première session. D'aucuns se demandent alors pourquoi ce phénomène. Eh bien, les raisons sont multiples. Soit les étudiants fournissent plus d'efforts à la deuxième session, soit encore c'est le phénomène circuit. Titien Nambouy s'est penché sur la question et nous propose cet élément de reportage.
Plusieurs institutions de l'enseignement supérieur venaient d'organiser leur deuxième session, occasion pour les étudiants ajournés en première session de se rattraper. Le constat fait est que plusieurs étudiants réussissent en deuxième session plus qu'en première, de quoi susciter plusieurs interrogations. Pour une promotion de 500 étudiants, 10 seulement peuvent réussir en première session et plus de 400 lors de la deuxième session. Pourquoi cet écart ?
Généralement, lorsque nous recevons les étudiants en deuxième session, ça signifie ceci qu'ils ont éliminé un grand nombre de cours à la première session. Ce qui fait qu'à la deuxième session, l'effort devient moindre par rapport à ce que l'on a déployé à la première session.
En seconde session, apprend-on, les professeurs seraient plus larges dans la cotation et recevraient des recommandations de tous bords.
Le phénomène circuit. Bon, en fait, c'est un terme que les étudiants utilisent pour dire, en fait, tous les moyens que les étudiants utilisent pour réussir. Et ces moyens-là tournent autour, en grande partie, de ce qu'on appelle la corruption. Ces moyens-là sont aussi ce qu'on appelle les recommandations.
Quoi qu'on dise, la deuxième session amène avec elle des efforts supplémentaires des étudiants, mais aussi des antivaleurs appelées circuits pour désigner achat des points, pour ne pas dire corruption et trafic d'influence.
À 18h, passé de 13 minutes, on va parler sport avec moi dans ce studio, Joël Kabeyangaloula. Bonsoir.
Bonsoir, Léon Magloire, mon
grand-père. L'actualité sportive au pays reste dominée par la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Algérie 2015 et la RDC reçoit ce samedi à Kinshasa au stade Tata Raphaël les éléphants de la Côte d'Ivoire.
Effectivement, Léon Magloire, Munga, la RDC concernée par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2015. Ce samedi, les léopards de la RDC accueillent les éléphants de la Côte d'Ivoire. Déjà à Kinshasa, tous les joueurs évoluant au pays sont à la disposition de Florent Ibengué, qui est le sélectionneur national, mais aussi les joueurs évoluant dehors du pays sont là. Parmi les arrivés, il y a Distel Zola, Youssouf Moulumbou, Yannick Bolazi, Jérémy Bokila, Chancel Mbemba, Hervé Kagé, Cédric Mongungu, il y a Junior Kabananga, Gabriel Zakwani, Nikez Koudimbana, Issa Mampeko et Tela Kalemano, tant que Niskens Kebano devrait aussi arriver hier mardi dans la soirée. Et du côté des éléphants, ils se préparent à Abidjan, qui est la capitale ivoirienne. La sélection congolaise s'est entraînée hier mardi, avant et après-midi, et aujourd'hui encore l'équipe nationale congolaise s'est entraînée. Et la Côte d'Ivoire annonce son arrivée à Kinshasa, sauf changement de dernière minute, c'est jeudi.
Voilà, voilà tout pour le sport. Merci à vous, Joël Kabeyangalola, d'être venu compléter cette édition avec cette note sportive qui referme complètement cette édition de la soirée. Madame, messieurs, nous avons été heureux de vous la présenter. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci également à Julien Sangois qui en a assuré la mise en onde et la réalisation. Prochain rendez-vous avec les informations tout à l'heure à 19h. Excellente soirée à toutes et à tous.
www.nyota.net, le Katanga vers le monde.
Nyota.net, une autre source d'information.
Nyota.net, une autre source d'information en ligne.